Kiss Thomas down, down, double down.
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Bien sur Le Grain de Sable, sur Radio Canus 102.2. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Bertrand et Marc Chinal, qui sont dessinateurs et scénaristes de la BD Johann Lepster, Le Début d'un Nouveau Monde. Bonjour.
Bonjour.
Donc, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez, et puis après qu'on parle aussi de votre...
Vas-y.
Moi, Mathieu Bertrand, donc je suis dessinateur BD. J'ai vécu mon enfance en Bourgogne un peu, je suis venu faire mes études à Lyon très rapidement et je suis assez rapidement allé à la BD avec l'école Émile Cole. Donc j'ai sorti un premier album qui s'appelait Mona aux éditions des Enfants Rouges et aujourd'hui, enfin il y a 5 mois, on a sorti Johann Lepster, Le Début d'un Nouveau Monde aux éditions RJTP. Donc réfléchir n'a jamais tué personne.
Ça se saurait.
Oui, mais il faut le préciser de temps en temps. Donc moi c'est Marc Chinal, je suis donc le scénariste de cette BD. C'est la première fois que je m'attaque à ce format-là. J'ai déjà écrit des chansons, pièces de théâtre, et puis je suis surtout réalisateur de documentaires. Et là, ben c'était le sujet qui était bien pour faire une BD.
Donc le sujet qui est les questions là. Environnement, société.
Alors, le sujet, il est vaste. Il parle de plein de domaines à la fois. En fait, il parle de la société actuelle et de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réellement améliorer les choses au lieu de chaque fois s'épuiser dans des luttes sans fin qui découragent, qui amènent à la violence, etc. etc. Donc, voilà. Donc, ce qui est. Je fais le pitch. Comme on dit, un résumé.
Oui. Après, peut-être dire boulot, quand vous dites, c'est pas avec un propos moralisateur.
Ah non, c'est pas fait pour dire ce qu'il faut penser du tout. Hein. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, dans une soirée entre amis à refaire le monde, se retrouve confrontée aux habituels discours politiques qu'on entend tous quand on fait ce genre de soirée. Et puis, ça tourne en rond. Et puis, elle, à un moment, elle pète les plombs et elle dit, mais que deviendraient nos problèmes de chômage, de pollution, de violence, de manque de budget dans l'éducation, etc., etc., si on était dans une société qui utilise ni monnaie, ni troc, ni échange. Une civilisation de l'accès. Donc voilà, là-dessus, tout le monde se fout de sa figure dans la soirée. Sauf deux gars qui se disent, nous aussi on y pensait, mais franchement ça paraît tellement utopique, tellement impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par quoi on commence? Et c'est là que débute réellement l'histoire où ils vont essayer la politique, ils vont se ramasser, ils vont essayer un éco-village, ça va bouger des choses. Et puis voilà, c'est toute une aventure où ils vont être confrontés aux différentes oppositions et opinions diverses et variées.
Voilà, donc il y a un côté, effectivement, on a parlé d'utopie, mais il y a aussi la réalité.
Ah, c'est ancré à fond dans la réalité. Hein. Il y a pas d'extraterrestres qui arrivent. Ça parle de permaculture. Ça parle de comment créer l'abondance. Mais créer l'abondance, ça peut être un problème dans une société qui est basée sur la rareté, quoi, pour faire des prix. Donc voilà, ça fait réfléchir à tout genre de problèmes.
Et qui reste quand même ancré sur des choses concrètes. Mm-hmm. Voilà, donc on est un peu dans ce qu'on dit le penser global, mais agir local. On va pas.
Complètement. C'est d'ailleurs un des reproches qui avait été fait à un moment par un journaliste qui disait oui, mais alors comment ça se passe au niveau mondial? Et il avait du mal à comprendre qu'en fait, à chaque endroit de la planète, ça bouge de cette manière, il n'y a pas besoin d'attendre que les autres le fassent aussi, quoi. Et donc, voilà, quand on bouge localement, tous dans un sens, constructif, Mais il n'y a pas besoin de d'attendre une tempête générale ou un truc comme ça, quoi. Le changement se fait bien à la base dans le local et même dans le super local, puisque la base c'est quand même aussi le cerveau humain et comment on gère notre violence à nous, comment on gère nos propres faiblesses, etc., etc.
Et nos envies aussi.
Tout à fait.
Et donc ces questions-là, elles vous trottaient dans la tête avant et c'est la rencontre, voilà, chacun d'entre vous deux, et c'est la rencontre qui a créé ce projet.
Alors moi, ça fait très longtemps que je suis sur ces idées de construire une civilisation de l'après-monnaie, mais le format BD, en fait, comme je réalise des documentaires, l'idéal ce serait aussi un film, sauf que les films c'est vraiment hors de prix, et la BD était beaucoup plus accessible pour raconter une histoire pareille, quoi. Donc voilà, j'ai rencontré Mathieu à plusieurs reprises et puis je lui ai proposé le sujet et puis si tu veux en parler, Mathieu.
Ouais, on s'est rencontré au Festival Lyon BD plusieurs fois et du coup il m'a amené le sujet qui était moi personnellement qui au premier abord qui me parlait pas forcément, bon, qui paraît assez vaste et assez peut-être farfelu finalement au premier abord. Et du coup, en se penchant un peu dessus, il m'explique un peu le projet, et finalement, ça paraît finalement plausible, quoi. On parle de monde un peu idéaliste, mais finalement, on l'amène sur un terrain qui permet qu'il soit un peu réalisable, finalement, et ça reste assez concret, comme on dit, ouais, finalement.
Tout à fait.
Et donc, c'était déjà un peu tout dans la tête au début, ou c'est vraiment aussi la pensée, les idées, elles se sont construites au fur et à mesure?
C'est un travail à part entière, dans le sens où les idées étaient là, mais après, il fallait faire en fonction du format de la BD, et le format BD est un format très très exigeant, parce qu'une bulle c'est tout petit, et quand on a plein de choses à dire, et ben, ça se complique.
Surtout que Marc fait des textes très grands.
D'origine. Mais donc justement, grâce à notre collaboration, il a fallu que je refasse des choses, que je réécrive, et qu'il amène sa touche et son œil de dessinateur pour que les choses se mettent bien en place.
Donc c'est aussi par rapport, voilà, où on peut lire des articles de journaux, voire des livres qui peuvent paraître rébarbatifs. Là, c'est quand même un format qui permet peut-être un autre accès, peut-être plus de liberté aussi en termes de pensée, parce qu'entre les bulles, il y a
de l'espace.
Plus d'espace que
tout à fait.
Qu'entre des mots.
C'est, la BD, c'est bien parce que justement, ça met quand même des images, dans le sens où des fois, on est obligé de tout décrire quand on fait que de l'écriture, donc forcément, c'est plus lourd. Et alors, ça laisse, quand on écrit tout, une part à l'imaginaire. Mais quand c'est sur ce genre de sujet qui est tellement vaste et qui peut faire tellement peur, l'idée de supprimer la monnaie alors qu'on est né dedans et que voilà, on est complètement formaté à ça, en général la première réaction c'est de dire mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis, qu'est-ce que c'est que ces bisounours, etc. Bien que historiquement il y ait eu plein de choses qui ont pu exister et qui ressemblaient, etc., etc. Mais là c'est vraiment vraiment radical, mais radical dans le sens entier, et non pas violent de quelque chose.
C'est vrai que sur la création de l'album, on est arrivé petit à petit à poser le récit. Donc le récit était un peu presque comme à écrire un livre finalement. Et il a fallu qu'on le redécoupe un peu ensemble pour alléger un peu tout ça, parce que peut-être le problème de Marc, c'était de vouloir peut-être trop expliquer au début, et du coup, avec le dessin, on explique aussi des choses. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre le texte et le dessin, qui est, peut-être au début n'était pas évident à trouver.
Mais surtout qu'en plus, ça parlait... C'est une photo du monde actuel, quand même, même si c'est anticipatif. Ouais, je ne sais pas si ça se dit, sinon. Mais c'est... Donc, le monde actuel, quand on est dans des milieux militants, on parle beaucoup.
Oui.
Donc tout de suite, dans une BD, parler, c'est chiant. Donc il faut arriver à trouver des angles différents, des actions différentes pour alléger tout ça, pour le rendre dynamique et pour renforcer le propos.
Mais ça permet aussi de structurer différemment et d'être plus elliptique et d'aller plus loin. des choses qui s'articulent et qu'on voit pas forcément dans le texte parce qu'il y a un déroulement qui est plus peut-être analytique, vraiment un raisonnement, et que là des choses font peut-être plus tilt.
Oui, apparemment oui, puisque la BD a l'air de plaire, donc là on va pas se plaindre, ça parle.
Après, on l'avait construit un peu en deux parties aussi, donc il y avait cette partie un peu analyse de notre présent et ce côté engagé, tout ça qui est un peu avec beaucoup de dialogues pour justement expliquer les choses et poser les choses. Et à partir d'un moment, au milieu de l'album, on part dans plus le concret, où on arrive vraiment dans ce village, en fait, qui est déjà autonome, ça fait déjà 5-7 ans qu'ils sont là. Il y a déjà un peu les choses qui sont en place, quoi. Donc, on a une grosse ellipse en milieu d'album qui fait le changement, quoi.
Qui permet de rebondir, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on vit quand on est dans des milieux militants. C'est le baratin, entre guillemets, parler, c'est la base.
Puisque d'ailleurs, on est à la radio.
Établir les choses. Bah oui, c'est bien. Mais à un moment, il faut agir, quoi. Et donc, voilà, c'est une espèce de césure au milieu de l'album qui fait que, paf, après, il y a de l'action.
Donc ça s'est nourri de réflexion et ça a peut-être aussi alimenté par des expériences, peut-être justement de choses que tu avais déjà croisées dans tes documentaires ou...
Oui, bien sûr. Il y a même des expériences personnelles, puisque je m'étais présenté dans des élections, mais bon, en tant que citoyen, pas dans des partis politiques... comme on a l'habituel, comme on a l'habitude. Et donc, ça m'a permis justement de décrire qu'est-ce qui se passe quand on est citoyen et qu'on essaye de participer au débat public lors des élections. Et ben, forcément, c'est une grande rigolade. Donc, il faut l'expliquer, ça. Parce que ça, c'est rarement expliqué dans les médias et tout ça. Donc, j'en ai profité dans la BD pour glisser 2-3 informations sur... les coulisses des élections quand on est citoyen.
Et vous avez aussi cherché à rencontrer des gens, chercher des alternatives à découvrir pour justement...
Alors, on n'a pas fait du tout le principe de Demain, le film de Cyril Dion. Je baigne dans ces milieux alternatifs depuis longtemps et c'était juste une question après d'assemblage de puzzle. Mais je n'ai pas eu à faire une enquête spécifique.
Oui, ou de mobiliser aussi des connaissances, des milieux militants.
Non, là, je suis désolé, c'est sorti du cerveau, évidemment issu des autres, hein, puisque tout seul, j'aurais pas pu faire quelque chose.
Et d'ailleurs, dans cette réalisation, vous avez eu des aides ou je pense aussi aide.
Non, pas du tout.
Financière.
On n'a même pas cherché à obtenir des aides quelconques, parce que de toute façon, un sujet pareil, un monde sans argent, sans monnaie, sans troc, c'est invendable, hein, qui, bon, ben...
Donc c'est la monnaie de la pièce, en fait.
Ouais. Voilà, sauf que, bon, ben, apparemment, quand même, ça trouve bien son public, puisqu'on a déjà reçu un prix, et on est en lice pour un autre prix, et voilà, ça fait plaisir.
Le prix que vous avez reçu est celui pour lequel vous êtes...
Alors, tu veux en parler?
Bon, le prix du petit festival qui arrive de Gier, qui s'appelle...
BDR,
voilà. Donc on a eu le prix du festival, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, quand c'est son premier prix en plus. Et puis le suivant...
Le prix du livre régional environnement, mais en fait on n'a pas ce prix, on est nominé à ce prix avec 6 autres livres. Qui parlent donc d'environnement.
Et qui eux ne sont pas forcément des BD,
on est la seule BD sur les 6.
Les livres, c'est des gros livres de 500 pages.
Oh, bah, te moque pas. Et donc, c'est un prix où fait parler la Maison de l'Environnement du Rhône et de l'Isère, et qui fait appel à des bibliothèques et des comités de lecture. Et ce prix sera décerné en octobre 2017. Voilà.
D'accord. Et les autres retours vous avez eu par des lecteurs, parce que aussi vous faites la présentation du livre, je sais pas, peut-être dans des librairies, des bibliothèques. Ouais.
Alors c'est pas au moment où on présente la BD qu'on a le plus de retours, forcément.
Non, parce qu'ils n'ont pas forcément
déjà lu. Bah oui. Mais c'est vrai qu'on a quelques retours, mais par le comportement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont et puis qui rachètent l'album pour l'offrir à plein de copains. Donc ça, c'est quelque part le meilleur indicateur pour nous dire tiens, ça a interpellé quoi. Puis hein, les gens trouvent ça utile parce qu'en fait, à la base, c'est un outil pour décoloniser les imaginaires. C'est pas du tout un pamphlet ou une bible pour dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Hein. C'est vraiment des pistes qui sont réunies par rapport à ce qui existe déjà. Et quand on les associe, on s'aperçoit que ça résout pas mal de nos problèmes actuels.
Oui, ça peut être base de discussion. Je pense également
bien sûr.
Ça peut être sur des tables de presse ou dans les bibliothèques d'associations qui peuvent aussi s'en servir. Il y a aussi le mouvement d'éducation à l'environnement et au développement durable qui travaille dans les écoles, dans les centres sociaux.
Tout à fait. Mais comme ça parle d'économie, qu'en France, il paraît qu'on est parmi les plus mauvais en éducation économique.
Eh bien, commençons avec la BD à s'y mettre vraiment.
Oui, peut-être, mais c'est pas un livre non plus. Pas ça. C'est un livre c'est une BD qui est vraiment transdomaine, quoi, parce qu'elle parle à la fois de l'économie, de l'écologie, de permaculture, de politique, de démocratie, etc. C'est pas une BD qui est là pour expliquer l'économie, quoi. C'est pas ça en parle forcément, mais voilà.
C'est pour ça.
C'est vraiment pour évoquer
c'est
et pour.
Plutôt pour en discuter et pas forcément. C'est pas un outil pédagogique, c'est plus un outil pour aller plus loin. Enfin.
Exactement.
Avant d'aller plus loin, on fait une petite pause musicale.
You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision?
Alors ce morceau, c'était Depeche Mode, avec leur dernier titre qui s'appelle Where's the Revolution. Donc ça rentre un petit peu dans le trip de l'émission et du thème.
Donc le thème, on reçoit Mathieu et Marc pour nous parler de leur BD, Joanne Lepster, Le début d'un nouveau monde. Donc on en parlait pendant qu'on écoutait le morceau. Donc déjà, il y a un tout aussi sur l'approche de la société. Et d'ailleurs, le héros est une héroïne.
Voilà.
Donc ça fait partie aussi de ce tout aussi de choix.
Tout à fait, ça fait partie d'un tout, quoi, d'arrêter de mettre toujours des héros masculins, même si en fait c'est le sujet principal, c'est elle le moteur, mais elle n'est pas hégémonique non plus. Le but n'est pas de remplacer le super-héros par une super-héroïne, ce serait débile. Le but, c'est de montrer que tout est possible, quoi. Parce que le problème, bien souvent, dans les milieux militants, c'est il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent, mais quand il s'agit d'aller au charbon, de se montrer, de se présenter ou autre chose, il y a toujours le poids culturel qui l'empêche. Qui fait que voilà, les femmes s'effacent, et je trouve ça vraiment plus que dommage, quoi. C'est vraiment la société y perd. Donc voilà, c'est un clin d'œil en disant mais just do it, quoi.
Ne serait-ce que prendre la parole, être personnage public soumis à la critique. On voit aussi que la critique est souvent très différente quand on s'adresse à un homme ou on s'adresse à une femme, et qu'elle est souvent plus violente parce que justement genrée.
Oui, même dans la BD, c'est évoqué parce qu'à un moment, elle discute avec un professeur d'économie, un ex-professeur d'économie, et puis le monsieur n'arrive pas à la moucher, alors il finit par l'insulter, quoi. Parce que c'est plus pratique.
Après, dans la bande dessinée, c'est vrai qu'on a pas mal de héros masculins, enfin, de plus en plus, on a des héros féminins, mais... C'est vrai que souvent, l'électorat féminin a juste à se mettre à la place d'un homme, d'un héros, quoi. Alors que là, du coup, ça permet de remettre les choses un peu dans l'autre sens, quoi.
Bah oui, il n'y a pas de raison que l'existence passe par la masculinité, quoi.
Et puis ça peut aussi permettre de parler de la place de la femme dans une société, justement, de l'argent. Et une société sans argent valoriserait aussi des choses qui ne sont pas monétarisées, comme le travail de beaucoup de femmes chez elles.
Bien sûr. Dans notre monde, on n'arrive pas à avoir l'égalité des salaires depuis X années. Donc là, sans monnaie, forcément, ça change les rapports de force. Même une évocation avec une personne qui est handicapée, qui dans le monde actuel a beaucoup de mal à trouver un patron qui l'embauche, parce qu'il faut des aides, parce qu'il faut des temps, machin. Enfin, il y a toujours une espèce de logistique tellement entre guillemets insurmontable que finalement la personne... Oui, lié forcément à la monnaie, quoi, puisque à l'utilisation de monnaie, puisque ça coûte cher d'aménager, s'il faut que la personne soit rentable à fond. Donc, et là, dans la BD, y a une femme qui est handicapée et qui dit, mais c'est formidable, maintenant j'ai ma place. Et on n'est plus soumis à la dictature de la rentabilité, et au contraire, je peux beaucoup mieux m'exprimer, beaucoup plus faire de choses.
Et être heureuse,
tout simplement, parce que utile à la société dans sa globalité, en faisant sa petite part normale, quoi. Voilà. Et bon, forcément, ça peut faire réfléchir.
Et donc, sur la question de monde sans monnaie ou l'après-monnaie, alors ça se concrétise comment?
Ça, c'est la grosse angoisse.
Les échanges se passent.
Ça, c'est la grosse question en général de savoir, oui, mais alors, si vous supprimez la monnaie, vous la remplacez par quoi? Eh bien, par rien. Et forcément, c'est terrifiant. parce qu'on se dit ah ouais mais ça peut pas fonctionner, les gens sont méchants. Évidemment les gens sont méchants, mais quand les personnes disent ça, ben c'est toujours le voisin qui est méchant, c'est jamais eux, hein, forcément. Donc remplacé par quoi? Ben en gros par des connaissances, par des connaissances pour faire les choses. Parce que quand on est dans un système qui utilise de la monnaie, savoir-faire, le savoir-faire est monnayable. C'est-à-dire qu'il faut le protéger avec des copyrights, avec des brevets. Quand il n'y a plus l'utilisation de monnaie, il n'y a plus besoin de copyright, il n'y a plus besoin de brevets. Au contraire, plus le voisin sait faire de choses et plus on lui donne accès pour faire les choses, moins il viendra nous emmerder ou nous menacer, contrairement au monde actuel. Donc voilà, ça vrille tout un tas de choses, et des connaissances aussi en matière humaine, c'est-à-dire que c'est quand même hallucinant que dans nos écoles, il n'y ait pas de cours de psychologie. La psychologie, c'est réservé pour les malades. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a tous un cerveau. On devrait tous un minimum apprendre comment naît la violence, comment naît la jalousie, comment naît tout un tas de choses dans notre cerveau, puisque c'est tout simplement un traitement de l'information. On a tous un cerveau, on devrait tous un petit peu comprendre ce qui se passe. Eh bien non, pas dans notre monde actuel. Il manquerait plus que ça de faire des êtres intelligents et conscients. Hein, après, ils n'auraient plus besoin d'acheter du Nike pour exister. Donc ce serait catastrophique. Donc résultat, pas de cours de psycho, pas de cours de philosophie, etc.
Oui, quand on voit
etc.
que les cours de philosophie sont limités en gros à la déterminée.
À la dernière année, quand ils sont bien formatés, les élèves. Et quand,
alors qu'il y a d'autres pays où on commence bien plus.
Bien sûr,
bien
puis il y a des exemples où ils font même de la philo à 3 ans, à la maternelle. Alors ça paraît totalement débile parce que 3 ans, on ne va pas parler de Platon, de la caverne et du reste. Enfin, c'est évidemment. Mais on apprend à 3 ans, dans la philosophie, l'art d'être avec les autres. C'est-à-dire apprendre à écouter les autres, apprendre à ne pas être d'accord et à savoir l'exprimer. Et c'est ça la philosophie à la base. C'est pas répéter comme des pantins, un tel il a dit ça en telle année, etc.
Catalogue des citations.
Voilà, ça c'est du crétinisme de masse. Alors, il faut savoir ce que d'autres ont pensé avant, parce que c'est utile. Autant savoir ce que les autres ont pensé, ça nous évite du parcours, ça nous enrichit, etc. Mais faut surtout pas se limiter à ça. Voilà, voilà.
Et donc, on a parlé tout à l'heure donc, de l'éco-village dans la BD. Alors, je vous disais, est-ce qu'il existe? Bien sûr, on a compris que non, ou du moins pas encore.
Il y a des choses
qui
existent.
Il se définit comment?
Alors, c'est un village où justement on essaye de créer l'abondance, de ne plus être dans des rapports de force. Et il existe déjà tout un tas de communautés qui sont un petit peu dans ce trip, mais qui sont en général pas assez organisées pour que on lutte contre le manque. Donc il y a toujours une espèce de dépendance au monde monétaire, qui fait que bien souvent, les problèmes reviennent au galop, de jalousie, de manque de budget, etc. etc. Donc là, dans cet exemple d'éco-village, ils essayent vraiment de répondre aux besoins, à tous les besoins, y compris culturels et autres, même si on n'a pas pu aborder tous les sujets, parce qu'il faudrait plusieurs tomes, et que là, c'est en un seul tome.
Oui, voilà,
l'histoire.
Justement, est-ce qu'il y aura une suite ou...
Donc, c'était pas fait pour qu'il y ait une suite. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, mais comment ça pourrait se passer dans une ville comme Lyon, qui est complètement hors sol, où justement même les terres agricoles sont massacrées, même juste de l'autre côté du périph'. On en a encore un exemple vers Vénissieux, où un champ va être remplacé par des buildings de Roi Merlin, avec des immeubles, etc.
Et puis une ville qui vit, on a l'impression, il va y avoir Lyon, Berlin, Paris, et puis qu'il n'y a plus
alors,
rien autour. Quoi.
C'est ça, c'est la désertification, parce que toutes les villes pompent l'activité, et voilà, et détruisent le reste, parce qu'on est toujours en concurrence commerciale, encore une fois. Et pour qu'il y en ait un qui grossisse, il faut qu'il y ait l'autre qui rapetisse, même si c'est un petit peu plus complexe, hein, parce que voilà, population, accroissement, etc., etc. Il n'empêche que quand le maire de Lyon ramène tout un tas de services administratifs à Lyon, ces services, ils ont disparu dans les campagnes, et puis voilà.
Et puis, quand on parle de pas de monnaie, ça veut dire plus forcément besoin de concentrer l'emploi, et notamment l'emploi tertiaire, au même endroit.
Ça c'est évident, c'est complètement débile d'avoir des immeubles où tout le monde est dans des embouteillages pour y arriver, pour faire un travail que même ceux qui travaillent se demandent à quoi il sert, et ils repartent la soirée de nouveaux bouchons pour retrouver leur maison, etc. Donc, c'est une organisation qui est... Quand on prend un peu de recul, elle est complètement débile, quoi. C'est comment gaspiller de l'énergie, comment gaspiller de l'efficacité, alors qu'au contraire, normalement, ils nous vendent l'efficacité, hein, puisque concentration d'activité, donc émulation, etc., etc. Mais quand on regarde de près, c'est une autre réalité.
C'est plutôt la masse de personnes qui sont en train de faire quasiment la même chose, ou même rien du tout, parce qu'attendre dans sa voiture que ça avance...
Ça, on perd sa vie là-dedans.
Et donc, c'est une idée qui vous trotte dans la tête
pour le second tome. Ouais. On en parle doucement, c'est pas encore fait.
Là encore, malheureusement, on est soumis au carcan économique de la création des BD. Il en sort 5000 par an rien qu'en France, donc vous imaginez le flot. Donc en gros, pour qu'il y ait un éventuel deuxième tome, il faut que le premier intéresse bien, quoi, nous motive, et que les gens soient motivés à lire un deuxième tome.
Et ça, on le sait, ça est sorti il y a 5 mois, donc en gros, ça se sait quand que, à un moment, c'est...
quand on est arrivé au seuil de rentabilité du premier, par exemple, et on en est encore loin.
Malgré tout, on parle de rentabilité.
Oui. Malgré tout, parce que c'est aussi un paradoxe, c'est-à-dire que il y en a, évidemment, c'est pas les plus intelligents, on va dire, même si ça c'est un petit pic, qui disent ah oui, mais alors vous parlez d'une société sans argent, mais votre album il est en vente, alors vous êtes des escrocs, gna 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 gna. Donc je leur réponds que il a fallu payer un libraire parce qu'on n'est pas des voleurs, il a fallu payer les coloristes, les dessinateurs, toute la chaîne du livre, et donc soit on respecte un minimum les règles et on le vend en plus à un prix pas abusif, donc faut un équilibre. Et c'est le but, c'est de faire décoloniser les imaginaires, donc c'est pas autre chose.
Est-ce que l'instauration d'une monnaie locale est une étape, par exemple, pour une pour un monde sans monnaie?
Alors ça, c'est une bonne question. Je fais partie d'un collectif sur Lyon qui est sur l'abolition de la monnaie, mais il en existe d'autres à travers la France. Il faut le savoir, même si évidemment nos médias habituels n'en parlent pas, parce que pourquoi parler d'un truc où on n'a rien à vendre. On a beaucoup d'idées différentes, même si on a ce même but commun de construire une civilisation sans utilisation de monnaie, enfin qui n'utilise plus de monnaie. Et il y en a qui pensent que ça passe par un revenu universel, il y en a d'autres qui pensent que ça passe par des monnaies locales pour aider à faire comprendre ce qu'est cet outil, parce que c'est ça la base. C'est si on ne comprend pas que l'outil monnaie, ok, c'est un outil d'échange, mais c'est aussi et obligatoirement un outil d'exclusion. C'est-à-dire que vous en avez, vous pouvez, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. Ajouter à cela que c'est basé sur un minimum de rareté, parce que vous échangez pas ça contre des feuilles d'arbres, vous échangez ça contre de la monnaie qui est en nombre limité. Et limité, ça veut encore dire, toi t'as droit, toi t'as pas droit. Et ça, on est obligé de se foutre sur la gueule à un moment ou à un autre avec une équation pareille. Donc, pour revenir aux monnaies locales, évidemment que c'est un support super intéressant pour justement prendre conscience de qu'est-ce que c'est réellement la monnaie, parce qu'il y a aussi un nombre de fantasmes là-dedans, mais c'est hallucinant avec l'histoire de la monnaie dette, avec tout un tas de choses, bref.
Donc c'est quand même une maîtrise, ça remet l'outil à sa place d'outil.
Exactement, mais à la place d'outil, mais il n'empêche que à un moment, la personne qui utilisera, si on utilise tous la monnaie locale, que tous les commerçants aussi utilisent la monnaie locale, ils seront, eux, toujours en guerre économique à essayer de piquer les parts du marché du voisin s'ils ont besoin de plus de ressources pour faire tel ou tel aménagement dans leur commerce ou autre chose. Donc en fait, évidemment, relocaliser la production, avoir un souci social de pas exploiter les gens, c'est évidemment mieux. Mais à la fin, on reste quand même dans une guerre économique, qu'on soit local ou transnational. Parce qu'il faut toujours piquer le chiffre d'affaires du voisin. Et voilà, après ça ouvre à débat et ce n'est que mon point de vue. Je suis, encore une fois, je vous l'ai dit.
En même temps, ici il y a donc l'expérience de la Gonette. Mm-hmm. Donc effectivement, l'idée c'est quand même de revenir sur des circuits courts. Alors effectivement, ça reste des circuits économiques, mais des circuits courts. Et on retrouve quand même des secteurs d'activité identiques qui se partagent la gonette. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de valoriser un secteur, de valoriser une forme de solidarité, même si il y a des exigences économiques. Parce que, comme vous le dites tous les deux, de toute façon, aujourd'hui, on a besoin de pouvoir vivre de ce travail ou d'une activité économique. Mais ça reste quand même... dans un esprit
de collaboration,
de coopération quand même.
Parce que l'activité, augmenter son chiffre d'affaires, à un moment, on aime aussi faire autre chose, être en vacances et ne pas passer sa vie justement à gagner.
C'est vrai que pour un peu de positif, c'est vrai que rien que le fait que la gonette existe, c'est vrai que ça désacralise un petit peu l'euro aussi, ce morceau de papier finalement qui est amené à un truc qui est un peu sacral finalement. On peut se dire, ben voilà, avec n'importe quel bout de papier, on peut se l'échanger et créer une monnaie, quoi, finalement. Pour amener à un monde sans argent, je trouve ça quand même intéressant.
Oui, mais c'est pas non plus n'importe quel bout de papier, parce que, voilà, même la gonette, elle est par la loi, obligatoirement adossée à l'euro. Donc si l'euro se pète la gueule, qu'est-ce qui se passe pour les monnaies locales? En plus, bon, il y a les problèmes de subventions. Enfin, faut chaque fois, c'est super compliqué à gérer une monnaie locale. Hein. Surtout que là, la gonette que je connais bien, j'ai plein de potes qui participent à ça. Il n'y a pas d'antagonisme. Voilà, ils ont choisi l'option papier. Et ça oblige à imprimer des papiers, à être dans une logistique qui est quand même un peu lourde. Et il y a d'autres monnaies locales qui, elles, n'ont pas ces soucis-là, mais en ont d'autres, qui sont plus dans l'électronique, dans le sud de l'Angleterre. Ils ont une monnaie locale qui n'utilise que des SMS et des choses comme ça.
Mais après, ça pose aussi la question de la fracture numérique. Voilà.
Exactement, ça oblige à être... Donc c'est pour ça qu'à un moment, on se dit, mais que de prise de tête pour essayer de faire mieux, alors qu'en fait, sans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'intelligence humaine disparaît, etc. Non. Donc, voilà, comme on dit souvent, la connaissance, c'est le seul truc que quand tu le donnes, tu ne l'as pas perdu. Donc, voilà, vive la transmission des connaissances, quel que soit le support. Et si ça passe par les monnaies locales, pourquoi pas. Mais faut aussi creuser la question, il ne faut pas faire des moutons non plus avec la monnaie locale.
Peut être aussi une étape pour commencer à réfléchir.
Tout à fait.
Quitte à se dire que c'est une phase...
Tout à fait, mais c'est ce que se disent justement certains collectifs, donc pourquoi pas.
On se fait une deuxième pause musicale ?
Viver não é preciso. refletindo teu tão bonito sorriso, sol perdido, horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto. Nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.
Nous écoutions Maria Teresa, les Argonautes. Et donc nous revenons avec Mathieu Bertrand et Marc Chinal pour parler de la BD Joanne Lepster, le début d'un nouveau monde. Alors il faut déjà dire qu'en fait la BD vous êtes trois, donc vous êtes deux ici, mais il y a une troisième personne.
Voilà, donc... Marie-Avril qui est la coloriste de l'album, donc qui avait travaillé pour Futuropolis dans Confidence à Alain, où elle était aussi dessinatrice et coloriste. Et donc là, vu que j'aimais beaucoup ces couleurs, on a fait en sorte qu'elle colorise mes dessins. Voilà, c'est un chouette boulot.
Elle est très belle, ouais. Et donc, on se disait aussi, on a parlé circuit court, que c'était aussi, donc cette BD, un produit local.
Oui, c'est un produit 100% local, dans le sens où tous ceux qui ont travaillé dessus sont de Lyon. Mais bon, j'aime pas trop le côté chauvin lyonnais, mais ma foi, voilà. Et il n'y a que l'imprimeur qui, lui, était dans les Landes, je crois.
Vous mais bon, c'est là où il y a le Lyon, l'éditeur.
Mais tout le reste, l'éditeur est aussi lyonnais, le scénariste, le dessinateur, la coloriste.
Ce qui était assez pratique, du coup, on pouvait se voir régulièrement, en parler, faire des retours directement. Parce que c'est vrai que sur d'autres projets, souvent... On finit par rencontrer le scénariste une fois que l'album est sorti sur un salon. Ça peut arriver. Et du coup, là, c'était assez appréciable de travailler dans un café, avancer.
Oui, de ne pas être juste de vous échanger des planches par mail.
Oui,
voilà. Ce que t'en penses.
C'est vrai, ça amène pas mal à des incompréhensions parfois. Là, on faisait nos réunions tous les 15 jours, 3 semaines. On faisait plusieurs planches par plusieurs planches. Et ça permettait de rebondir, de lui pendant qu'il dessinait, parce que évidemment comme la qualité de ses dessins, lui quand il dessine, il fait pas semblant, donc c'est assez réaliste, enfin c'est très réaliste, le trait, moi je le trouve superbe, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais voilà, et évidemment ça se fait pas en claquant des doigts, quoi, c'est pas un, C'est pas un gros nez, hop, et voilà, et ça fait un personnage. Hein. Je critique pas les gros nez, hein, mais c'est autre chose, quoi. Et donc, forcément, lui, il met un certain temps pour faire les dessins. Et quand on faisait le storyboard, qui est un pré-travail pour placer les personnages, pour placer la situation et tout, le temps qu'il le fasse, moi, je m'embêtais un peu, et donc, ça me permettait aussi de
rebosser un peu le scénario.
De rebosser la conception de l'image, et de dire, tiens, là, s'il y avait tel détail, hein, s'il y avait tel angle de vue, etc., etc. Et ben, ça a permis un enrichissement du travail qui n'aurait pas pu se faire si on était par mail... à distance.
Oui, c'est vraiment un travail à 4, non, à 6 mains.
Ouais, enfin, bon, dans un premier temps à 2, parce que la couleur est arrivée ensuite sur la dernière année de boulot. Ouais. mais oui, c'est vrai que ça permettait de prendre le temps de faire les choses bien. Quoi. Donc,
sans penser rentabilité, justement.
Là, voilà, c'est quand on est un peu hors cadre.
C'est pas une BD très rentable, ça, c'est sûr. Une BD en 3 ans, on peut pas dire que ce soit.
Bon, après, tu faisais aussi autre chose pendant ce temps-là, mais parce que justement, il fallait bien.
Oui, donc c'est un projet sur. Quand même, c'est. Donc, il a commencé en
2013. J'ai commencé en 2013. Je l'ai commencé en fait en même temps que mon premier album, Mona, là. Et donc, du coup, il y a eu un moment où il a fallu que je mette en pause celui-ci pour finir le premier. Et puis, enfin, il y a eu un petit schmilblick
logistique. Parce que c'est le problème aussi quand on est toujours dans ce carcan économique, c'est que quand un jeune dessinateur comme Mathieu, il a beau avoir du talent, ce qui fait travailler, ben, c'est des illustrations, ça peut être de la publicité, ça peut être plein de choses.
Pas mal d'ateliers BD
des
aussi.
Des ateliers BD, et si vous vous coupez de ce genre de revenus parce que vous vous focalisez sur un album, une fois que l'album il est fait, il ne vous reste plus rien. Vous êtes coincé. Donc, il était obligé de travailler de partout à la fois. Quoi.
Maintenir le réseau, enfin, il y a tout ça à côté
réseau,
qu'il faut travailler.
Des carnets d'adresses de ceux qui passent les commandes, etc. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le dessin. Pourtant, c'est fondamental dans le milieu du dessin. Quoi.
Oui, on ne peut pas dire « je ne suis pas libre avant l'année prochaine, ça ne marche pas
ouais. »
ou « on vous oublie
». Voilà, c'est un peu ça dans ce monde, surtout du graphisme, de la publicité et tout ça. Ouais, quand on fait des illustrations dans ce milieu-là, il faut maintenir un peu la cadence aussi. Et à côté, en plus, maintenant, je suis prof à l'école Bellecour, donc du coup, ça rajoute en plus du boulot à côté. Mais bon, qui permet de rentrer de l'argent chaque mois.
Parce qu'on parle de publicité, mais évidemment, on n'est pas pro-publicité, hein, mais c'est juste que à la fin du mois, il faut payer les trucs et que le marché impose certains travaux.
Et justement, vous accompagnez, en parlant de publicité, sans parler de publicité, mais vous accompagnez un peu là, quand même le fait que maintenant la BD est sortie, qu'elle puisse être présentée, alors ça peut être dans des écoles, ou des librairies, ou des bibliothèques, ou dans d'autres types de lieux d'ailleurs, peut-être militants.
Bah, on est passé au RIS dernièrement, à Villeurbanne, on a eu un super accueil d'équipe et tout, il n'y avait pas énormément de monde, mais les gens qui étaient là étaient vraiment géniaux, quoi. On a pu échanger, présenter, c'était super.
Ouais, il y a une petite conférence aussi au bar Alternative Bar,
ouais, bien sûr.
Qui est assez engagé.
Qui est pas loin d'ici, à Montée de la Grande Côte.
Voilà.
Là aussi, c'était vraiment très sympa. Et puis le problème, c'est que quand on aborde ce sujet, après, faut finir le débat à un moment. Et ça, c'était frustrant. À l'Alternative
Bar, ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui vous donnent peut-être des idées aussi.
Bien sûr.
Ouais, c'est des bons retours. Des gens qui. Ouais, ça permet des retours et des idées pour la suite, ouais, c'est sûr.
Oui. Oui.
C'est ce que vous n'avez pas évoqué, des frustrations peut-être.
Mais là encore, tout à l'heure, j'étais avec un distributeur. C'est compliqué, hein, la BD. Hein. C'est pas juste des belles images et du texte et tout ça. C'est aussi des systèmes de distribution, etc., etc. Et arrivé à un certain stade, voilà, on est obligé de passer aussi par des diffuseurs et des outils comme ça. Et le monsieur que j'avais contacté nous avait dit c'est un peu frustrant à la fin. Parce que justement, on a envie que ça continue, on a envie d'autres trucs et tout ça. Et
ça, c'est un peu le principe de toutes les BD quand même.
Ben, je dirais presque même des BD entre guillemets intéressantes. Hein, sans... Parce que justement, on a envie d'autres choses. Il y en a des BD, bon, bah, on l'a lu, hop, on passe à autre chose et puis on a oublié quoi.
Donc, oui, on n'est pas dans le divertissement
non, pur. Non, on n'est pas dans le pif-paf-poum, mais on n'est pas non plus dans le truc prise de tête. Il y a de l'action, il y a tout, il y a la société, quoi. Mais voilà, c'est un sujet qui, comme pour le débat à l'Alternative Bar, à un moment, il a fallu s'arrêter. Alors qu'en fait, ça aurait pu continuer encore longtemps parce que les échanges étaient riches.
À 1h du matin.
Ouais, non, mais là, faut pas le dire.
Fini à dédicacer.
Et c'était, voilà, c'est le but en fait de cette BD. Continuer à discuter, mais calmement et sur des bases constructives, quoi.
Et quand on parle.
Bah après, pour revenir un peu sur le côté promo, c'est vrai que là, ce week-end, on est sur le salon Prime Vert, salon de l'écologie.
Tout à fait. Ce week-end à
Eurexpo.
Et ATA qui tiendra également un stand. Oui, vous pouvez faire d'une pierre deux coups et plus de deux coups parce qu'il y a plein de choses.
Oui, il y a
plein de structures et d'initiatives à voir et à rencontrer surtout.
Ouais. Oui, et puis beaucoup aussi de conférences super intéressantes. C'est assez frustrant d'ailleurs quand on tient un stand parce qu'on ne peut pas aller là où on voudrait. Il faut s'occuper quand même du stand. Mais oui, il y a énormément d'activités là-bas, de diffusion, de débats, de films, de plein de choses. Vraiment, il faut aller au Salon Prime Vert ce week-end. C'est vraiment très très riche. Ce n'est pas un salon entre guillemets bobo comme disent certains. Enfin, hein, la critique habituelle de l'écologie. Ça concerne tout le monde.
On peut y causer, on peut y manger, on peut y boire de très bonnes choses.
Tout à fait.
Effectivement, ATAC va tenir un stand. Il y aura aussi sans doute le collectif pour un audit pour la dette. Les amis de Palestine aussi, collectif 69 pour la Palestine. Enfin, plein de stands intéressants où vous pourrez effectivement vous arrêter, discuter. Voilà.
Et puis plein qu'on ne connaît pas en plus. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on découvre des trucs... parfois oui, un peu improbable.
On vient par rapport à une thématique qui nous intéresse, ouais. Et on en découvre d'autres, et c'est bien le principe, justement, voilà, c'est de pouvoir s'intéresser tant à la question voilà, de la monnaie, de la démocratie, du logement, de
l'écologie. Ouais, tout à fait. Traitement animal.
La bande dessinée.
Oui.
Donc vous tenez un stand, c'est un stand propre ou vous êtes dans un...
Alors moi parallèlement là c'est exceptionnel, on présentera la BD mais je m'occupe d'un stand justement sur l'abolition de la monnaie. Donc comme ça fait partie de l'objectif de décoloniser les imaginaires, voilà, on présente la BD mais ça c'est pas, voilà, c'est pas un stand marchand, on est là pour faire réfléchir une fois de plus, pour lancer deux, trois pistes, des fois pour faire un peu de provocation, parce qu'on a une canne à pêche avec au bout un billet, donc ça fait toujours un peu rire ceux qui passent et qui le regardent.
Il y a quelque chose à gagner ?
Non, l'estime de tous.
Et sinon la BD, on la trouve dans toutes les librairies ?
Oui, toutes les librairies à la fois de BD, à la fois normale, si je puis dire, pas spécialisée. Que ce soit dans les centres commerciaux ou dans les petites librairies de quartier bien sympathiques chez lesquelles on a nos habitudes.
Et on parlait un peu de produits locaux, mais elle est quand même diffusée...
Et elle est livrée en vélo sur Lyon, hein. J'insiste sur le truc là, parce que ça doit être un des rares libres sur Lyon, livrés...
Mais vous
vélo.
Avez pu aussi dépasser voilà, la région lyonnaise
et... Oui, c'est distribué dans toute la France, mais c'est très long. C'est très long parce que c'est parfois là où on passe. Voilà, c'est...
Ah oui.
Quand on est invité à un salon, souvent le libraire du coup, va se fournir en album et le mettre à disposition dans sa librairie.
Et ça, après, c'est intéressant. C'est souvent... Alors, il en prend parce qu'il se dit, peut-être que ça vaut le coup. Donc, mais il fallait arriver jusqu'à sa librairie.
Oui.
Finalement, après, ailleurs, c'est surtout les lecteurs qui vont se renseigner, aller chez leur libraire et puis le commander auprès de la librairie. Et, voilà, et le libraire, après, va passer commande. Quoi. Donc, le temps que le chemin se fasse et que le bouche à oreille se fasse, ouais, c'est...
C'est pas comme les grosses machines comme Dargo, comme Casterman ou Glénat ou d'autres.
Oui, on sait que d'emblée, on est partout.
Voilà, c'est un truc, c'est entre guillemets imposé. Enfin, c'est dans le catalogue. On arrive avec les BD, on les met, hop. Voilà, c'est fait. Après, elles repartent si elles ne sont pas vendues. Nous, on n'est pas du tout dans cette
Oui, donc vous mouillez la chemise vous-même aussi.
Ah, beaucoup plus, oui.
Parce qu'on n'a pas le diffuseur, quoi. Le diffuseur qui fait le lien entre l'éditeur et le libraire.
Voilà,
là, il a été sucré, donc du coup, il faut faire la part de... de promotion nous-mêmes.
C'est ce que je disais tout à l'heure, le diffuseur il est en instance parce que justement on arrive un peu à un stade limite, quoi. C'est-à-dire que si, fallait déjà tester si ça intéressait. Et là maintenant, comme ça a l'air d'intéresser et qu'on a des commandes un peu de partout dans des petits bleds, c'est très compliqué en fait la diffusion parce que la Poste, depuis sa course à la rentabilité, on n'en parlera pas trop, mais bref, écrasement de tout un tas de choses. En fait, la Poste gagne plus dans la livraison d'une BD que tous les autres, en fait, que le dessinateur, que l'imprimeur, que tout ça, parce que voilà, il y a le coût du timbre pour une BD qui fait 650 grammes, c'est 6 à 8 euros, quoi. Et donc, ça gêne pour un album qui fait 15, ça fait beaucoup, quoi. Les gens, ils sont pas prêts à le payer 21 euros quand il fait 15. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut passer par la diffusion. Mais bref, c'est tout un tas de choses pas intéressantes. Mais non, qui mais fait partie du système.
Ben voilà, on se retrouve quand même bien dans le système et on voit que ça marche après parce que, voilà, par le bouche à oreille, par les gens qui sont convaincus, par les militants, par,
par les curieux.
Voilà, et c'est symptomatique que ce soit plutôt Primevert, dans votre.
C'est vraiment dans plusieurs domaines parce que même on a fait un salon de l'économie à Lyon qui s'appelle le GECO où il y avait qui est très intéressant parce qu'ils font venir plein de gens, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit et tout. Et il y avait un salon du livre économique et on a été la deuxième meilleure distribution du salon, parce que voilà.
Parce que je dédicassais aussi.
Parce que tu dédicassais, mais si tu dédicassais un truc qui intéressait personne, ça aurait fait qu'un gars qui essaye de gribouiller.
Je confirme que la dédicace dessinée était superbe.
Ah, merci beaucoup.
Merci.
On espère que vous continuerez justement bien à la. Qu'elle sera bien vue et qu'elle permettra à plein de gens de réfléchir.
Qu'elle amène la question surtout de l'utilisation de la monnaie sur la place publique, parce que c'est ça le truc fondamental, c'est rien d'autre. C'est faire réfléchir à ça.